Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Du mot qui veut dire « tu es une délice ». Une délice pour Dieu, comme le Messie est le désir des nations, t'es désiré. Savez-vous que vous êtes un délice pour Dieu aussi, si vous êtes dans le Messie? Wow! Sortez avec ça, vous allez être comblés. Mais il y en a beaucoup plus qui s'en vient. On voit à quel point vous êtes, on est chacun précieux pour Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut être précieux pour Dieu quand Job dit qu'est-ce que l'homme pour que t'en fasses tant de cas? Pourquoi tu daignes prendre garde à lui? Wow! Mais c'est ça que le Saint-Esprit fait à l'âme de l'homme à travers sa parole et à travers la prière. Donc, cette prière va nous montrer comment arriver peut-être à ce point, parce qu'on n'est pas tous, tu sais, on fait pas tous la délice de Dieu, surtout quand on pêche, mais on va voir que il y a une façon de l'être. Et Monsieur Gabizon, quand il a écrit, il a dit, il prie que vous allez être inspiré par et béni par ses paroles inspirées. Donc, on va lire les deux premiers versets. On va reculer au début du chapitre. Et ça commence en disant versets 1 et 2. Je les mets pas à l'écran, les versets, quand ça vient de Daniel 9. Donc, allez chercher votre Bible si vous avez pas encore fait. La première année de Darius, fils d'Assuéros, de la race des Mèdes, lequel a été devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Donc, c'était la première année de Darius, mais c'est qui? Il y a beaucoup de théories par rapport à son identité, mais c'est pas important, sauf de savoir que c'est quelqu'un de la race des Mèdes, et ce n'était plus Babylone. Daniel a été déporté sous le règne des Babyloniens. Maintenant, les Babyloniens sont sortis et ce sont les Mèdes qui règnent présentement. Donc, on voit la première année de son règne, comme si on va faire un appel aux Juifs de vite faire des préparatifs pour retourner en Israël, à cette terre promise, parce que Cyrus, le roi, qui est comme, en tout cas, on va pas entrer dans les détails, va leur donner une permission de retourner et rebâtir Jérusalem, rebâtir le temple. Donc, Daniel a compris tout ça. Comment est-ce qu'il comprenait? Parce que il comprenait les livres. Je vis par les livres, ça dit en verset 2. Quel livre? Bon, je viens de vous nommer l'Ancien Testament. Et c'était au moins la loi et les écrits. Et on va voir quels prophètes ont écrit avant l'exil auquel il avait accès. Comme Jérémie, par exemple, le prophète, ça dit le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Donc, il a compris que dès le début de la captivité, 70 ans, il avait sa calculatrice, puis là, il a calculé, ça fait 70 ans. Donc, c'est le temps de s'en aller de Babylone. Et on voit que, est-ce que vous avez remarqué la façon que il appelle les écrits de Jérémie, il les appelle la parole de Dieu. L'Éternel avait parlé. Il croyait que sa Bible était la parole de Dieu directement du ciel, de nous, on l'a complètement, 100%, et Daniel et toutes les personnes de Dieu dans les Écritures croient ça. Daniel le croyait et il le croyait littéralement. 70, c'est pas un chiffre aléatoire, tu sais, n'importe qui peut définir, mais une vraie nombre. La Bible contient des vrais nombres. Gardez ça en tête. La Bible contient des vrais nombres. C'est comme ça que l'Esprit nous parle. Il veut pas nous parler dans des énigmes. Tu sais, quand on va voir la tribulation, 3 ans et demi, 7 ans, 2300 ans, 75 jours, c'est littéral. Pourquoi pas inventer d'autres sens pour tout ça? 1000 ans, c'est 1000 ans. 1000 ans du millénium ou du royaume messianique. On connaissait pas le 1000 avant l'Apocalypse, mais si vous parlez à des théologiens ou les pasteurs qui sortent des séminaires ou même des pasteurs, j'en ai parlé même à Québec, qui disent non, c'est plus 1000 ans, c'est non. Ils pensent que c'est des chiffres, on peut, tu sais, leur faire dire n'importe quoi. Ce sont des chiffres allégoriques. Il y a une tendance d'allégoriser. Je vous ai déjà parlé de ça ce printemps, de ne pas prendre la parole littéralement. Et on va finir dans le champ. On va finir dans le champ parce que il y a juste une façon de voir la parole quand ça vient des chiffres, en tout cas. Ils vont finir où Caïn a fini. Caïn, en Genèse, a fini dans la terre de Nod. Savez-vous ce que Nod veut dire? Errer. Ou être dans le néant. C'est ça qui arrive quand on prend pas la parole littéralement. Donc, on va juste résumer la prière de Daniel et on va voir tous les éléments nécessaires pour venir à Dieu. Encore là, on va pas lire les versets, mais je vais résumer les idées que M. Gabizon fait sortir. On va voir une prière pour un non-croyant et une prière pour un croyant, dans le sens, il y a des choses qui sont importantes pour chacun quand on prie. Donc, dans le verset 4, et vous allez le lire après. Je vous invite pas nécessairement à lire les versets pendant que je vous parle. Mais au début, dans le verset 4, on voit un genre de crainte révérentielle. Il commence par reconnaître qui est Dieu. Parce que pourquoi prier, hein? Si Dieu est pas tout puissant, il est pas au-delà de tout, et il est pas gracieux, pourquoi il écouterait nos prières? On a un certain effroi, mais avec respect. OK? Il n'y a pas de contradiction entre la puissance de Dieu et son amour. C'est un juge qui est juste. Il n'y a pas de noirceur nulle part en lui. Tout le noir, ça vient de nous. Dans les versets qui suivent, 5 et 6, il parle de comment l'homme n'arrive pas. On est des pécheurs. On n'a pas écouté. Ah, ça peut être comme tout le monde chaque jour. Verset 7, on voit que Daniel dit que c'est pas ta faute si on n'a pas écouté Dieu, n'est-ce pas? Si on pêche, c'est pas la faute de Dieu. Deux fois, il parle de la honte qu'on doit avoir. Puis, il y a une honte, c'est correct. On la garde pas pour longtemps. On va se faire laver, si vous voulez, mais oui, il y a une certaine honte à prier et à reconnaître nos péchés. Et dans les versets jusqu'à 14, il dit que même tous les hommes sont des pécheurs. Les leaders, les chefs politiques, les chefs religieux, tout le monde, passé, présent, futur. Et là, au verset 15, il commence à demander. Il dit, mais agis, tu sais, pour Israël. Il continue pendant 4 versets. Jusqu'à ce que Dieu avait déjà envoyé l'ange Gabriel, on le sait. Et puis Gabriel vient lui dire, non, c'est pas le temps de confesser tous les péchés d'Israël pour que le royaume messianique commence, parce que tous les hommes et femmes de Dieu croyaient à ce temps futur où il y aurait un règne messianique du Messie. Donc, moi, j'ai toujours cru ça. C'était mon espoir. Quand Benoît a parlé ce matin de, tu sais, de la maladie bipolaire, ma mère souffrait de ça avant qu'on ait des médicaments pour ça. Et moi, je savais que mon seul espoir était, tu sais, que la vie s'améliore pour moi, c'est si le Messie venait. J'avais ce désir pour l'ère messianique, le même désir peut-être que Daniel, qui était dans un genre, ben, il était en captivité, il souffrait lui aussi. Donc, mais c'était pas l'époque, c'était pas encore le moment pour ça. Donc Gabriel vient lui expliquer tout ça. Et puis on va le voir dans la prophétie qui est à la fin de chapitre 9. Et peut-être vous allez être surpris, mais dans les quatre versets qu'on va regarder cette fois et la prochaine fois, on va voir et la première venue et la deuxième venue de Jésus. On va voir sa mission, sa mort, on va voir, tu sais, c'est vraiment plein. Il y a des dates très spécifiques. Et les gens du premier siècle avaient leur calculatrice, tu sais, et ils étaient capables de calculer que, hey, c'est le temps pour le Messie à venir. Et on a commencé un genre de fièvre messianique. Hey, il s'en vient bientôt. Et on voit que on a commencé à faire des dépôts. C'est quoi son nom? Peut-être, tu sais, on a des écrits de cette époque-là. Et on voit que tout le monde cherchait le Messie. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont pas fait? Ils ont pas gardé dans les Écritures. Coudonc, il y a plus d'une centaine de prophéties qui nous disent où est-ce qu'il va naître, ce qu'il va faire. Et tu sais, c'est tout clairement énoncé dans l'Ancien Testament exactement comment trouver ce Messie. Mais parce qu'ils se sont pas branchés sur la parole de Dieu, encore en danger d'être en dehors de la parole, on voit des faux messies un peu partout, surtout après Jésus. Il y en a qui disent, il y en a tellement eu de faux messies, tu sais, impossible de compter le nombre. Par rapport à la deuxième venue, Daniel le décrit et il dit que ça va être au milieu d'un temps très difficile. Il va avoir un leader super puissant qui est méchant. Il va venir, il va détruire Jérusalem, le temple. On va voir ça la prochaine fois. Et sûrement, ça a dérangé Daniel beaucoup, là. Il vient de vivre tous les 70 ans de la captivité. Il était un vieil homme. Il était dans la quatre-vingtaine, probablement. Et là, il attendait à ce que ça s'améliore. Puis, coudonc, il a prié pour ça. Il a confessé les péchés de son peuple. Mais non, c'était pas le temps pour ça. Tu sais, le Messie, Jésus, Yeshua en hébreu, il est pas encore venu. Donc, il devait mourir en premier. Puis Daniel avait, tu sais, pas compris tout ça. Mais après tout ça, il va avoir un temps de paix. Et on va voir que le Messie, et quand il va venir, il va mettre fin au péché. On va être réconcilié avec Dieu. Il va avoir une justice éternelle. Wow! On va regarder chacun des résultats. Et c'est ça les résultats de la bonne nouvelle de cette prophétie. Encore là, la prophétie est quatre versets seulement, mais c'est plein d'informations. Mais il n'y a pas de date donnée, mais quand même, les gens étaient capables de calculer un peu aux alentours de quand ce Messie devait venir. Donc, on va regarder, on va arriver tout de suite à la prophétie, verset 24. Et ça dit 70 semaines ont été, c'est pas dans le diapo, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions. On va décortiquer tout ça. Les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Donc, on va commencer avec l'idée 70 semaines. Et il y a beaucoup de débats là-dessus. Et pourtant, c'est pas si difficile à comprendre. Mais il y en a qui veulent pas peut-être qu'on le comprenne. Ça dit pas exactement dans le texte, c'est 70 quoi? 70 semaines, 70 jours, mais on va regarder ça. Dans le fond, en français, on a une facilité. On va parler d'une dizaine. On n'a pas de mots avant 10, mais dizaine, douzaine, quinzaine, vingtaine. Donc ici, on a le mot pour septaine. C'est pas le mot semaine parce que la Bible n'a pas été écrite en français. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, mais en français, on aurait pu écrire 70 septaines. Pourquoi les traducteurs ont mis semaine, je ne sais pas. Mais on parle d'années parce que si ça avait été des jours ou des mois, ça fit pas, ça marche pas pour reconstruire Jérusalem, le temple, tout ça là. Donc, on va regarder une autre place où ce mot est utilisé. C'est toujours, ça aide beaucoup, mais ça vient de la bouche de quelqu'un qui était pas très fin. C'est Laban qui a demandé à Jacob pour laisser Rachel terminer sa semaine. Et on va voir l'explication en Genèse 29, verset 27. Il dit, achève la semaine avec celle-ci, avec Léa dans le fond, et nous te donnerons l'autre, Rachel, pour le service que tu feras encore chez moi pendant une autre septaine, 7 nouvelles années. Donc, ici, on voit qu'on a traduit le même mot par 7 années. Donc, on sait que c'est ça que ça veut dire. Merci à Laban, même s'il a triché Jacob par-dessus la tête. Bon, il nous aide là-dedans, là. Et donc, le mot est Shavuot, c'est cette septaine. Et tous les rabbins ont compris ça. Et ça fait très bien pourquoi les Juifs sont allés en captivité en Babylone. Parce que, pourquoi? Parce que Gabriel va faire un genre de jeu de mots, si vous voulez. Il a dit, OK, Daniel, tu penses que les 70 ans sont terminés, mais il reste encore 70 septaines. Pourquoi? Parce que on est le dimanche. Vous savez que dans la loi de Moïse, Dieu a demandé que les Juifs fassent des choses pour le sabbat. Le septième jour de la semaine, ils devaient se reposer. Mais la terre devait aussi reposer à tous les 7 ans. Et ils l'ont pas respecté pendant 490 ans. Donc, maintenant, on arrive à un autre 490 ans. Donc, c'est pour remplacer toutes les années que la terre avait pas été laissée en repos. Il va avoir encore ces années-là. Dieu oublie pas. Dieu oublie pas. Ensuite, on a l'idée de 70 semaines ont été fixées. Fixées veut dire délimitées, déterminées, parce que peut-être vous avez déjà entendu parler du temps des gentils. C'est pas du tout ce que je croyais quand j'étais jeune. Ça a à faire avec les non-juifs que si et ça. Non. Le temps des gentils, c'est toujours basé sur Jérusalem et le fait que les Juifs ont pas le contrôle total de Jérusalem depuis la chute sous Babylone jusqu'à la fin de la tribulation. Vous dites, mais maintenant, les Juifs ont Jérusalem. Voyons donc, Donald Trump a déjà dit que c'est le capital. Non, non. L'esplanade du Temple est contrôlée par la Jordanie. Donc, la totalité de Jérusalem et surtout le Temple est pas contrôlée par les Juifs aujourd'hui. Et on appelle ça le temps des gentils. OK? Dans la Bible, vous allez voir ça dans l'Évangile de Luc en lisant à travers la Bible. Donc, ça a commencé, comme j'ai dit, avec la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ, Babylone, et ça va terminer à la tribulation, à la deuxième venue du Messie, que lui, quand il va régner, là, le temps où les non-juifs ont une partie, au moins un contrôle partiel de Jérusalem, ça va prendre fin. Donc, on voit des empires différents qui vont arriver, et puis on ne va pas aller trop dans les détails, mais il y a eu 4 empires, grosso modo, là, les Mèdes, les Perses, on a les Grecs, on a les Romains, et puis finalement, on va avoir un rétablissement final d'Israël. Et un dernier point, c'est que quand on parle de tout ce programme de 70 semaines, ça n'a pas à faire avec l'Église, OK? Ça a à faire avec les Juifs, les 70 semaines d'année, c'est par rapport à la ville juive de Jérusalem. Donc, ce programme ne concerne pas l'Église au complet, ça concerne Israël. Mais on va voir où cette prophétie nous amène. On voit un résultat. Et là, on va décortiquer ça. On va voir une partie très rafraîchissante de la Bible et on va voir 6 choses différentes. Donc, premièrement, on voit qu'il va faire cesser la transgression. Et je vous mets l'emphase sur la, parce que dans vos Bibles, toutes les traductions que j'ai consultées en français, ça dit les transgressions, mais c'est pas du tout le sens. Pour mettre fin au péché, pour expier, on va les regarder chacun, expier l'iniquité, amener la justice éternelle. Phew, j'ai hâte pour ça. Sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Mais on va commencer avec le numéro 1. Mais pour dire globalement, il y en a 6. 6, c'est le chiffre de l'homme. Quel est le chiffre de Dieu? Mais c'est 7. Donc, l'homme a été créé le 6e jour. C'est le jour pour nos travaux parce qu'il faut travailler 6 jours et par le sueur de son front. Et puis, on se repose le 7e. Donc, 6, c'est le chiffre de l'homme. Et l'Esprit utilise 6 choses pour comme renverser cette malédiction dans un temps de grâce. Et ensuite, il va dire que, oui, il y a 3 choses négatives. Comme vous voyez, les 3 premiers, 1, 2, 3, sont négatifs, indésirables. C'est ce qui va être enlevé pendant ce programme de 70 années. Et ensuite, les 3 autres, 4, 5, 6, sont positifs, sont souhaitables, sont merveilleux et même ça correspond aux 3 premiers. On va revoir cette diapo souvent dans l'enseignement, donc vous allez avoir du temps pour prendre des notes, OK? Donc, premièrement, c'est faire cesser la transgression et le terme hébreu veut dire confiner fermement ou complètement, mettre un terme. Le mot transgression, oui, veut dire péché. Il y a plusieurs mots pour péché. Mais dans le contexte hébreu, il y a un article défini. On retourne au banc de l'école. On sait c'est quoi un article indéfini. Un article défini, ça c'est là. Il y a juste une transgression. Il y a des différences d'opinion. Il y a des professeurs ou des pasteurs qui disent c'est le péché au jardin d'Éden. Mais Monsieur Fruchtenbaum, dans son livre, si vous avez le livre sur les traces du Messie qui maintenant est rendu à 25 $ imprimé, relié et tout beau là, c'est le temps de le commander si vous voulez comprendre les temps de la fin là. On a commandé plus de 400 copies, donc là on a baissé le prix pour pouvoir les écouler. Désolé, mais pour ceux qui ont payé plus, merci pour votre don pour le ministère que nous faisons ici. Mais Monsieur Fruchtenbaum dit que la transgression, c'est le rejet de Jésus en tant que Messie. Et puis on peut voir ça en Ésaïe 53 et Zacharie 12. Donc on veut que le péché ne se propage plus parce que c'est ce que j'ai appris très jeune. Ça continue à se propager, le rejet de Jésus en tant que Messie. Et finalement, ils vont se repentir, Israël, de leur péché en Zacharie 12, 10, et puis ils vont avoir le salut national d'Israël. Donc, le premier objectif, c'est de faire cesser la transgression nationale d'Israël qui a rejeté Jésus en tant que Messie. Et un autre passage qui dit que le Messie va prendre la punition de cette révolte sur lui-même, on le voit dans le chapitre par excellence pour voir le Messie, Ésaïe 53, verset 8. Dans le diapo, ça dit, « À cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. » Donc, ça, c'est le seul moment que cette transgression est complètement finie, est vraiment terminée, c'est par le Messie. Donc, mettre fin veut dire vraiment arrêter complètement. Et évidemment, c'est par Jésus qui est mort sur la croix. Numéro 2, ça dit pour mettre fin au péché. Et là, le mot péché est le mot qu'on utilise le plus souvent quand on passe à côté de ce qu'on doit faire. Mais quand Jésus vient, dans le fond, pas quand Jésus vient, mais on va voir, ça touche vraiment au lac de feu quand on va plus pouvoir pécher. Tout le péché va être fermé pour l'éternité sans souvenir de son existence. Troisièmement, ça dit à l'écran pour expier l'iniquité. L'iniquité, expier, c'est le mot kapar. En hébreu, je vous ai déjà parlé de ce mot et c'est accompli en Jésus et ses sacrifices et ses jugements. Ce mot est utilisé dans le système de sacrifice pour dire que c'est par le sang que nos péchés sont expiés. On le voit la première fois en Genèse 6, 14, quand Dieu a appelé Noé et lui a demandé de construire une arche. Et il dit, en chapitre 6, verset 14, « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'induiras de poix, comme de goudron, en dedans et en dehors. » Donc, avec poix. Ça, c'est le mot qui est traduit pour expiation. Hein? Spécial. C'est une illustration de sécurité, cette arche, mais Noé devait le couvrir en dedans et dehors. Wow, OK. Qu'est-ce qui est le seul objet qui a survécu au déluge? C'était cette arche-là. Et c'était couvert par l'expiation. En dedans et dehors. C'est pour ça que Noé et sa famille, les animaux ont survécu à cause de l'expiation. Donc, juste le bois, ça aurait pas été assez. Il fallait que ça soit couvert par l'expiation, de payer le prix pour le péché. Donc, c'est la dernière fois que nous voyons ce mot expiation dans la Bible. C'est la dernière fois que c'est mentionné. Donc, dès la première fois qui est en Genèse, ici, c'est la dernière fois qui est l'expiation finale. Donc, c'est normal. Jésus a tout pris sur lui-même. Donc, nous n'avons pas à porter le poids de l'iniquité sur nous. Jésus l'a dit lui-même dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 30, où il dit, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donc, ce mot « joug » n'est pas utilisé d'un genre de fardeau ou esclavage. Non, non. Nous, on bénéficie présentement de tout ça. Il y avait une illustration, je vais résumer pour vous. M. Gabizon a trouvé un homme qui s'appelle James Christopher Harrison, qui a donné assez des dons de sang. Là. J'espère que vous le faites. Je le faisais pendant que je pouvais, avant que mes veines disparaissent. Mais il vit en Australie et on dit que son sang a sauvé les vies de plus de 2 millions de bébés nouveau-nés parce que qui aide quand le bébé est pas le même groupe RRH que la maman. Et donc imagine le sang de Jésus a sauvé beaucoup plus que juste un bébé à la fois, mais toute l'humanité et pour toute l'éternité. Donc, on a compté 290 références à l'amour de Dieu, mais savez-vous combien de fois on parle de cette expiation dans la Bible? Plus de 1300 fois. Wow! Donc, on voit les trois, les premiers mots qui parlent de comment... l'homme est empêché d'avoir la communion fraternelle avec Dieu, transgression, péché et iniquité. Tout ça, ça doit être terminé. Et là, on va avoir numéro 4. Ces semaines-là vont amener la justice éternelle et on voit que c'est vraiment grand. Le mot pour éternel, je dois vous dire, n'existe pas en hébreu. Éternel, vous avez en français, j'ai en anglais. Forever, ça n'existe pas en hébreu. Ça veut dire pour une période de temps, comme quand un esclave décide, moi, je veux rester avec mon maître, ça va tellement bien ici que même après ces années sont terminées, on peut percer un trou dans son oreille et puis ça dit qu'il va rester avec le service de son maître pour l'éternité. Mais wow, le bonhomme ou la femme, ils vont mourir. Donc, c'est pas éternel, mais c'est pour une période fixe de temps. Mais quand ça concerne Dieu, le mot « léolam » veut dire vraiment éternel, OK? Dans le sens que nous le comprenons. Juste, je vous le mentionne. Mais on va voir dans le verset 23, pardon, chapitre 23, verset 6 de Jérémie, que cette justice appartient à Jésus. Et c'est ça son nom, l'Éternel, notre justice. C'est la seule façon qu'on peut avoir de la justice. Isaïe nous dit que, en chapitre 53, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et puis, je veux juste vous mentionner ce que le mot juste veut dire ici. Moi, quand j'étais petite, on nous parlait d'un tzaddik, c'est le mot en hébreu. Un tzaddik, c'est un homme très juste, c'est un homme vraiment qui est arrivé au summum de vraiment, tu sais, la sainteté quasiment, là. Et donc, moi, mon désir, c'est d'être tzaddik. Même si je pouvais pas arriver en haut complètement, je voulais arriver plus haut. Mais ici, ça dit, mon serviteur, le tzaddik, va me rendre tzaddik. Donc, moi, je suis rendu tzaddik maintenant, uniquement, et vous aussi, par Jésus, qui est le serviteur qui a tout accompli. Lui est arrivé au point le plus haut. Et moi, il me donne, il vous donne cette justice qui est aussi haut. Wow! Incroyable. Donc, finalement, on peut s'approcher de Dieu par le Messie. Ensuite, le cinquième parle de sceller la vision et le prophète. Parce que en Jésus, toutes les visions et les prophètes et les prophéties trouvent leur but. La première partie de cette façon de sceller la vision et les prophètes, on le voit en Matthieu 11, verset 13, quand Jésus dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, toutes les prophéties de la première venue sont accomplies jusqu'à Jean le Baptiste. Et les autres, on va les voir à la fin de la dernière semaine. Donc, on approche ce moment quand tout va être scellé et fermé. Et Paul donne un indice de ce temps où tout va fermer dans les prophéties. En 1 Corinthiens 13, 8, où ça dit, « La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront et la connaissance disparaîtra. Tout l'enseignement au monde va trouver leur but et leur accomplissement dans l'amour et en Dieu pour son nom. » Wow. Sixièmement, vous voyez, pour oindre le sein des saints. Et bon, le sein des saints, c'était une partie du tabernacle et du temple qui était au centre où on offrait l'expiation et où il y avait la présence de Dieu même. Et le grand prêtre pouvait entrer là-dedans juste une fois par année. Mais Dieu a déchiré le rideau qui amenait à cette place-là quand Jésus est mort. Et on voit que dans le temple du millénium, on voit que c'est pas mentionné cette partie parce qu'il va y avoir quatre temples. C'est après la destruction du premier temple. Le deuxième temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Le troisième temple, on va le construire peut-être bientôt. Mais celui-là, l'Antichrist va s'asseoir dedans. Et après ça, quand Jésus reviendra, il va avoir un quatrième temple majestueux. Vous avez juste à regarder Ézéchiel 40 à 48 pour voir les détails. Mais tu vois, le lieu très saint n'est pas mentionné dans ce quatrième temple. Et on voit pourquoi en Jérémie 3, verset 16, ça dit l'arche de l'alliance de l'Éternel, parce que à l'époque de Jérémie, avant l'exil, on disait, mais Dieu va nous protéger, on a le temple, on a le temple, on a le temple. Et puis Jérémie, il va y avoir un temps où vous aurez plus le temple. L'arche de l'Alliance ne viendra plus à la pensée, parce que l'arche de l'Alliance de l'Éternel était à l'intérieur du lieu très saint. On se le rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence et on n'en fera point une autre. Parce que Jésus va être présent dans le quatrième temple, pas nécessaire. Donc, il n'y a pas de rideau dans ce temple décrit en Ézéchiel. Donc, on va résumer La prophétie dans la prochaine diapo, on va résumer la prophétie des 70 semaines ou 490 ans. Ils sont divisés en trois sections de 7 semaines qui fois, on sait que c'est 7 septaines, qui veut dire 7 ans. Donc 7 fois 7, c'est 49 ans. Ensuite, on a 62 semaines. Donc, 62 fois 7 ans veut dire 434 ans et finalement, les 7 dernières années qu'on va regarder la prochaine fois. Donc, les deux premiers correspondent à trois événements majeurs dans l'histoire d'Israël. Regardez le verset 25 dans vos Bibles et je vais traduire le mot « semaine » pour « année » et ça va rendre tout ça plus facile. Verset 25 de Daniel 9. Sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour depuis la sortie de la parole pour établir et bâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a 49 ans et 434 ans. Ok, vous voyez, c'est des années. La place et le fossé sont rebâtis et cela en des temps de trouble. Donc, là, on peut changer de diapo. Les 49 premières années commencent à la fin de cette captivité de 70 ans. Vous voyez dans la boîte rose les trois prophètes pré-exiliques et dans la boîte en bleu foncé des prophètes qui viennent après. Je vais faire mention après l'exil de 70 ans. Et on voit les 7 semaines des 7 fois 7 qui nous donnent 49 ans. Ces 49 ans commencent à la fin de cette captivité de 70 ans. C'est ça qui a déclenché la prière de Daniel qu'on a vu et a compris que c'était le temps de retourner. Mais Daniel était trop vieux. Là, il y avait Zerubbabel. Vous voyez, il n'est pas prophète, là, mais il est marqué dans la boîte bleue. C'était un ancêtre de Jésus. Et puis, lui, il est retourné à la terre d'Israël. Ça a pris comme 2 semaines pour marcher là avec 42 600 Juifs. Mais c'était pas facile parce que le roi Cyrus, le roi Perse, était content de laisser les Juifs aller parce qu'il a vu que son nom paraissait dans le livre d'Ésaïe ou à Tata, où il est célèbre. Mais il y avait un aspect spirituel à tout ça et il change d'idée et les travaux arrêtent. Mais Esdras et Néhémie interviennent et finalement on rebâtit ce temple et les 49 ans sont terminés. Mais quand même, c'est pas facile. Et ça nous amène à la deuxième période de 434 ans. Et puis, on peut dire que c'est de Malachie à la première venue de Jésus. Donc, la deuxième section sur la diapo nous montre ça. Et vous voyez que les 62 semaines équivaut à 434 ans. Et puis, c'est entre le temps de Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, au moins que nous voyons comme l'Ancien Testament. Jean le Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament, jusqu'au Messie. Donc, Israël était persécuté tout ce temps-là, et puis ils n'ont même pas reconnu Jésus quand il est venu lui-même. Et il y a un verset important, le verset 26. Je veux que vous regardiez dans vos Bibles, parce que vous allez voir que c'est encore là pas une traduction très juste. Verset 26 dit, après les 434 ans, le Messie sera retranché. Ça veut dire, il va mourir, OK? Mais vous avez peut-être, il n'aura rien. C'est pas du tout la bonne traduction. Ça dit, en hébreu, mais il va mourir pas pour lui-même. Nous savons qu'il est mort pour nous, hein? Donc, ça a beaucoup plus de sens. Et le peuple du prince, le peuple, c'est le peuple romain, vont détruire la ville et le lieu saint et la fin en sera avec débordement et jusqu'à la fin, il y aura guerre. Coudonc, on a encore des guerres. et un décret de désolation. Donc, le Messie est mort, pas pour lui-même, à la fin de ses 434 ans, OK? C'est ça qui est le plus important. Et ça dit que la fin en sera avec débordement, et quand il y a une déluge, débordement, ça parle toujours d'une invasion militaire, comme quand Rome est venu. Donc là, le deuxième temple est détruit en 70. Les Juifs sont éparpillés partout au monde et Jackie, voilà, au Québec. Vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que je fais ici? Voilà, c'est là-dedans. Donc, on vit encore cette histoire on est dans un temps de désolation parce qu'on n'a pas le pays au complet. Mais tout concorde vers sa volonté parce que même si nous, on est faible des fois, on peut rien changer de la volonté de Dieu. Le Messie est venu juste au bon moment. Et nous le voyons dans Galates 4, versets 4 et 5, quand il dit, mais dans la prochaine diapo, et ça nous donne toute une paix, hein? Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Vous aimez donc l'imparfait du subjonctif, hein? Galates 4, 4 et 5. Ça, c'est notre Dieu qui est fidèle, il est fiable, il travaille dans l'histoire, et il travaille dans nos vies. Donc, il est là pour le croyant. On peut pas toujours comprendre pourquoi, mais on sait que Dieu est en contrôle. Je vais juste vous mentionner une petite histoire courte, même si mon temps a écoulé. Il y a une histoire d'un homme qui s'appelle Solomon Ginsberg. Oui, il était juif polonais et il a cru en Jésus très peu à cette époque-là, il y a plus de 100 ans. Il a décidé d'aller aux États-Unis et puis il est allé au Portugal de la Pologne et il devait prendre un bateau. Il a finalement pris un bateau malgré le fait que, bon, tu sais, les prévisions de Météo Média disaient que, oui, c'est venteux, peut-être c'est pas un bon temps pour prendre un bateau. Il a lu un verset en Deutéronome qui lui a parlé et lui a dit, c'est vas-y. Donc, il y a eu l'idée qu'il fallait aller. Donc, il est parti, il arrive aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que s'il avait tardé, il serait arrivé à Londres juste à temps pour prendre un nouveau bateau à partir de Londres qui s'appelait Titanic. Wow! Donc, il a été sauvé de prendre le Titanic. Donc, Dieu contrôle, Dieu est en contrôle et puis, wow, ça nous soulage. Donc, la prochaine fois, on garde la 70e semaine et je veux juste terminer en disant merci pour votre soutien financier. Si vous êtes intéressé par les enseignements avec une perspective juive, vous pouvez aller sur YouTube au poste ministère au pluriel, ministère avec un S, Ariel Canada. Vous allez voir des enseignements sur le livre de Nombre et puis aussi sur les fêtes d'automne. J'ai du nouveau matériel. Vous pouvez en parler à Sarah Saint-Louis si vous voulez en savoir plus parce qu'elle a assisté pas mal toutes les fois. Donc, merci pour le soutien que vous versez. Évidemment, je ne peux pas travailler beaucoup ce temps-ci et je l'apprécie grandement. Je vais commencer une nouvelle série bientôt pour femmes. Ça, j'en ai pas parlé à personne pour le moment, qui va être une partie encouragement pour aujourd'hui et une partie prophétie pour le futur, qui va durer une trentaine de minutes. Donc, restez à l'écoute. Merci.
Merci beaucoup, Jackie. Alors, on va terminer avec un mot de prière, mais juste pour résumer un petit peu qu'est-ce qu'on a enseigné dernièrement à l'Église. Donc, on a eu les sept périodes de l'Église dans le livre d'Apocalypse. on a vu qu'il y avait des avertissements, des louanges à chacune de ces périodes-là. On a vu qu'on était aussi dans la dernière période de l'Église. Là, ce qu'on vient de voir, c'est un peu la période de l'Église, mais c'est plus que ça. Même si elle dit que ça ne concerne pas l'Église, elle a raison, mais c'est la période des gentils. On est donc dans la période des gentils Jackie, tu me corrigeras si j'ai tort. Là. La période des gentils, elle a lieu jusqu'au millénium. C'est ça, Jackie?
Jusqu'au début du millénium. Si ça va prendre fin, quand Jésus va régner, oui.
Exactement. Donc, ce que j'ai entendu ce matin, c'est un peu ça que je t'avais demandé, c'était de rappeler les 490 ans, le calcul qu'on arrive à 69 semaines, puis une 70e semaine. On a vu qu'aujourd'hui, le mot « semaine » ne veut pas dire semaine de 7 jours, mais c'est une septaine. C'est ça?
Oui, exact, oui.
Et donc, quand on calcule le temps où la prophétie a été donnée jusqu'à temps que Jésus soit retranché, il y a 490 ans qui s'est passé.
Non, pas 490, non. Ça, c'est la totalité, là.
Oui, c'est 483.
Oui, il faut dire qu'il y a des livres entier, dédié à décider c'est quand l'année du départ, c'est quand l'année de la fin. Donc je suis pas entré là-dedans, Monsieur Gabizon le fait pas non plus, mais probablement c'est à partir du décret de Cyrus que on peut compter le 434 pour arriver au moment que Jésus, soit qu'il est né, soit qu'il est mort, il y a beaucoup de discussions là-dessus.
Ce qu'on doit retenir, je pense, c'est que les 69 semaines de Daniel sont passées.
Oui, et on a une période de temps maintenant qui n'est pas déterminée avant qu'on commence la 70e. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, tu m'as demandé que j'arrête là. Donc, on est dans une période entre 69 et 70.
Oui, c'est ça. Donc, il y a comme un genre de chronomètre ou un timer qui est arrêté. Puis là, l'Église a commencé. On est dans une période élastique entre la 69e semaine ou 69e série de 7 ans. Et on est dans une période élastique. Puis va venir la 70e semaine de Daniel, qui est la grande tribulation. Donc, le prochain message que Jackie va nous enseigner, c'est la grande tribulation. Donc, si je résume, on a parlé de la période de l'Église dernièrement, pendant 3 ou 4 messages. On a vu qu'on était à la fin de cette période-là. Bientôt, très bientôt, Jésus va revenir.
Peut-être aujourd'hui.
Il peut venir aujourd'hui. On va voir, on a vu avec Jackie aujourd'hui que les 69 semaines étaient déjà passées. Donc, on a fait un retour dans le temps, avant la période de l'Église. Là, la période de l'Église a commencé, le timer a arrêté. Il a arrêté. Puis, il reste encore une semaine à venir, qui est une période de 7 ans, qui est la grande tribulation. Donc, Jackie va nous enseigner sur ça la prochaine fois. Ensuite de ça, on va avoir un enseignement sur le millénium. Puis, après ça, on va avoir un enseignement sur les temps éternels. On va voir si on est capable de faire un message au complet avec ça, Jackie.
Ouh!
Il n'y a pas grand-chose sur l'état éternel. Alors, merci beaucoup, Jackie, de nous avoir apporté la parole ce matin. Je vais terminer avec un mot de prière. Puis, ceux qui sont avec nous, là, à distance, restez là parce que je vais vous amener avec nous saluer les gens de l'Église puis faire le tour à l'éducation chrétienne aussi. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Donne-nous l'intelligence des temps. Aide-nous à comprendre dans les temps où nous sommes, Seigneur Dieu. C'est de la gymnastique pour le cerveau, ces 70 semaines-là. C'est vraiment de travailler fort, puis de dérouiller des capacités qu'on... Des fois, on lit Daniel, puis on voit la fin d'un temps, la fin d'un autre temps, puis on comprend pas, mais quand on étudie, puis qu'on a des ministères, comme le ministère Ariel, qui nous équipe pour mieux comprendre les Écritures, les chiffres prennent du sens. Fait qu'on n'est pas, laissé à la merci de qu'est-ce qui va arriver un jour. On sait comment ça va finir. Présentement, il y a des gens qui... Il y a des manifestations un peu partout. Puis là, il y a des, On veut comme pas qu'il y ait un mauvais gouvernement en place, puis tout ça. Puis tu sais, quand on regarde la semaine des grandes tribulations, on voit que ce ne sera pas nécessairement un bon gouvernement qui va être là, tu sais. Mais tu as dit au début de l'Apocalypse, Jean a dit que tu as fait de nous un royaume. Donc, tu as les royaumes et ton royaume. Et tu n'es pas venu pour que la terre aille mieux nécessairement. Tu es venu pour nous racheter, mettre un terme à nos péchés, mettre un terme à le péché qui est de rejeter le Messie et de nous conduire à toi, Seigneur Dieu. Fait que merci pour ces temps que tu nous aides à comprendre. Bénis chacun d'entre nous. Et le reste de cette journée, au nom de Jésus, amen. Jackie, que l'Éternel te bénisse. On est vraiment heureux de continuer à être partenaire avec toi tout le temps. Puis on a hâte de t'entendre sur la grande tribulation. Et le millénium, si ça te tente, on en reparle.
Et j'ai hâte de vous voir. C'est juste de voir les quelques visages. Ça m'a tellement donné le goût. J'ai vu Stéphanie, mais elle avait pas le micro ouvert. Ou, tu sais, il m'a pas regardé. Puis en tout cas, il y en a plein. Allô, allô, oui, tournez. Oh, j'ai tellement hâte de vous, même vous, allô, Louise, vous serrer de, allô, Sylvie, tu sais, de vous dire bonjour. Oh, merci. Quelqu'un a eu miséricorde sur moi.